Pour celles et ceux que l'état de droit passionne, la discussion qui va suivre est proposée à l'occasion d'une soirée exceptionnelle pour la Nuit du droit du 2 octobre 2025, en partenariat avec Amicus Radio et le Conseil constitutionnel. Cette soirée est co-animée pour Amicus Radio par Mathieu Fèvre-Issali, chercheur en droit public, et Tania Rachaud, chercheuse en droit européen. Le podcast est réalisé par Leobardo Arango.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour Amicus Radio d'être accueilli ici au Conseil constitutionnel en la présence de son président, Richard Ferrand, et de nos intervenants, Vincent Vigneault, Thierry Thuot et Patrice Pinozzi, que nous allons présenter dans un instant.
L'objectif de notre discussion ce soir est de faire entendre quatre voix sur l'état de droit. L'état de droit, on en parle autant que de la démocratie, de la justice. Nous allons entendre quatre voix de juges et de juristes, alors que ces notions et les réalités qu'elles recouvrent sont âprement discutées. Les termes même de la discussion ne sont pas toujours clairs, ou peuvent sembler abstraits, abscons, parfois un peu théoriques aux citoyens. L'État, la démocratie, la justice est finalement avant toute chose une question de droit. C'est la question que nous allons nous poser ce soir, une question de règles, de normes communes à garantir, à protéger ou à discuter. Et l'État de droit, ce sera un peu aussi, je pense, j'imagine, le fil rouge de cette discussion. Est-il remis en cause ou est-il au contraire renforcé et de ce fait de plus en plus discuté? Et nous allons donc pouvoir entendre le diagnostic sur les défis et les enjeux de ces termes et de cet État de droit avec nos intervenants ce soir.
Pour en discuter justement, nous avons donc le plaisir d'être en compagnie de Richard Ferrand. Vous êtes président du Conseil constitutionnel depuis mars 2025 et vous avez été auparavant député et même président de l'Assemblée nationale entre 2018 et 2022. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation depuis 2022. Vous êtes également professeur associé à l'Université Paris-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous accueillons également Thierry Thuot. Vous êtes conseiller d'État, président de la section de l'intérieur au Conseil d'État depuis 2023. Vous avez également enseigné dans différentes universités et présidé Sorbonne Université.
Bonsoir.
Enfin, Patrice Pinozzi, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous plaidez également régulièrement devant la Cour européenne des droits de l'homme ou encore devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de QPC.
Nous ouvrons notre discussion avec vous, Monsieur le Président Ferrand. Le Conseil constitutionnel, nous sommes ce soir, est garant de la norme constitutionnelle. C'est du moins ce que l'on sait, évidemment, communément. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En quoi est-ce important pour l'État de droit, pour le droit et pour les citoyens?
L'État de droit, c'est la démocratie. C'est le cadre qui la garantit. Puisque, ici, au Conseil constitutionnel, nous avons, au fond, deux activités essentielles. La première, c'est de s'assurer la conformité des lois adoptées par le Parlement à notre Constitution, mais aussi et au-delà, à l'ensemble des éléments que sont la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le préambule de la Constitution de 1946, bref, un ensemble de principes qui fixent un cadre. Et donc, nous vérifions la conformité, et j'ai coutume de dire que, comme nous avons c'est Brien Vedel qui disait ça, la gomme mais pas le crayon, eh bien nous gommons, nous censurons ce qui déborde au coloriage quand le législateur en quelque sorte s'emporte et va au-delà de ce que justement notre cadre constitutionnel autorise. Et nous sommes également gardiens des libertés, des droits fondamentaux qui font notre République, qui font l'identité républicaine de la France. Et donc les questions prioritaires de constitutionnalité qui nous viennent après que ce que l'on appelle le juge du filtre, c'est-à-dire le Conseil d'État ou la Cour de cassation, considère que ces questions sérieuses ou nouvelles méritent d'être transmises, sont également a posteriori l'occasion soit de valider un certain nombre de dispositions, soit au contraire de les censurer parce qu'elles seraient contraires aux droits et libertés que garantit la Constitution. Donc notre mission, c'est cela. C'est d'être les vigies actives du respect de notre état de droit, mais rien de plus. Nous ne sommes pas législateurs, et c'est au sein de ce cadre qu'est l'état de droit que le législateur a toute liberté pour faire évoluer l'état du droit, et ce n'est pas qu'une voyelle, ce distinguo, et nous ne sommes pas constituants. Ce n'est pas nous qui donnons des avis ou qui pouvons réviser ou faire évoluer la Constitution. Donc nous sommes à notre place, mais nous ne lâchons rien de notre place et nous sommes vigilants sur le respect de ce cadre qui nous permet une vie démocratique. Et c'est important de le rappeler, la nuit du droit en est l'occasion, parce que bien souvent, on ne mesure l'intérêt des libertés que quand il est trop tard, c'est-à-dire quand on les a perdues. Et donc, nous sommes vigilants pour faire en sorte que précisément les droits et libertés qui ont constitué les progrès de vie dans notre société ne soient pas altérés. Voilà notre mission et à laquelle nous sommes très attachés, sur laquelle nous sommes à neuf, car je précise toujours que nous sommes un collège et nous décidons en collégialité, c'est ce à quoi ensemble nous veillons.
Monsieur le Président Vigneault, la Cour de cassation règle de son côté plutôt des litiges de droit privé, ce qui veut dire que l'État n'apparaît pas directement en tout cas, et on connaît aussi le rôle de gardien des libertés individuelles, justement de ce juge judiciaire. Alors, dites-nous comment se manifeste l'état de droit du côté des juges privés. Quel rôle joue le juge judiciaire, justement, dans la mise en œuvre des droits fondamentaux?
Alors, l'état de droit, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas que les droits fondamentaux. C'est d'abord le droit pour chaque citoyen d'accéder à un juge et de voir trancher le litige qui l'oppose à son adversaire. Contrairement à une idée parfois reçue, la Cour de cassation n'est pas non plus un législateur de l'ombre, mais c'est plutôt le gardien de la cohérence juridique. Notre rôle n'est pas d'inventer la loi, mais d'en garantir l'application égale pour tous, même quand ça dérange. Et quand un citoyen saisit la justice civile ou commerciale, il y a en droit d'obtenir une réponse pour résoudre son litige, même si la loi est silencieuse, même si elle est obscure, même si elle est incomplète. L'état de droit, c'est précisément cette garantie que personne ne sera laissé sans protection juridique. Face aux révolutions technologiques, aux mutations économiques et aux évolutions de la société, le législateur ne peut pas tout anticiper. Eh bien, le juge, lorsqu'il est saisi d'une question pour laquelle il ne peut pas trouver directement la loi, la solution, il doit trouver lui-même sa solution en dégageant une règle spécifique au cas d'espèce, non pas pour concurrencer le Parlement, mais pour garantir l'effectivité du droit. Je prends un exemple que je n'ai pas puisé dans la jurisprudence de la Chambre commerciale, mais pour ne pas avoir l'air de hausser le col, mais dans celui de la Chambre sociale. Par exemple, les litiges entre les chauffeurs de VTC et les plateformes de VTC. La loi ne prévoit pas explicitement cette situation, pourtant massive. Fallait-il alors laisser ces chauffeurs sans la protection du droit du travail? Les juges, alors d'abord des conseils de prud'hommes, ensuite les cours d'appel et enfin la Cour de cassation, ont tranché. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un contrat commercial entre égaux ou un lien de subordination déguisé? Les juges ont dû qualifier juridiquement ce rapport en s'appuyant sur le Code du travail et la notion de subordination. Et dans un arrêt du 4 mars 2000, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'exécution d'un travail se fait sous l'autorité de la plateforme, qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, de contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements, c'est le statut du salarié qui s'impose. C'est ça aussi l'état de droit. Quand la réalité sociale dépasse le texte, le juge comble les interstices sans attendre une réforme législative qui peut prendre des années. C'est, je dirais, un filet de sécurité, pas une camisole de force. Parce que le législateur peut toujours revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Et puis, les droits fondamentaux, puisque vous me posez la question, ils irriguent constamment notre jurisprudence. Quand nous appliquons la Convention européenne des droits de l'homme, même dans un litige commercial, ou quand nous veillons au respect du principe de la contradiction dans une procédure pour assurer l'équité du procès, nous faisons vivre l'état de droit au quotidien. Quand nous appliquons la Convention européenne d'un conflit entre associés ou que nous annulons une procédure dans laquelle l'équité n'a pas été respectée, nous ne faisons pas de la politique. Nous appliquons des règles de droit que la France a librement choisies, auxquelles elle a pleinement adhéré. L'état de droit, c'est comme un contrat social. On ne peut pas en vouloir les avantages sans en accepter les contraintes. Et le rôle de la Cour de cassation, c'est aussi d'harmoniser l'application du droit sur tout le territoire, garantissant l'égalité des citoyens devant la loi. C'est tout l'enjeu de la cassation. Faire en sorte que la même règle s'interprète et s'applique de la même façon, que ce soit à Paris ou à Marseille. C'est ça aussi l'état de droit, que l'interprétation soit la même pour tous. Sans cette uniformité, ce serait une sorte de Far West juridique, et l'on sait bien que Far West a fini toujours mal, du moins toujours pour les plus faibles. C'est précisément ce rôle qui incombe à la Cour de cassation, juridiction faîtière de l'ordre judiciaire, qui doit délivrer une interprétation unique du texte de loi et peut, le cas échéant, l'imposer aux juridictions du fond.
Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je me tourne vers le Président Thiot. Le Conseil d'État est une institution particulière. Elle juge et elle conseille l'État. Et le Conseil d'État, dont vous présidez l'une des sections, joue un rôle central au cœur du fonctionnement même des institutions de l'État et plus précisément de la fabrication du droit. Et ma question serait alors, en quoi cela contribue-t-il à l'État de droit et notamment, est-ce le moyen d'avoir une règle bien faite ?
J'espère bien sûr que c'est le moyen d'avoir une règle bien faite. Vous le rappeliez à l'instant, nous avons trois métiers au Conseil d'État. Le premier, qui est le plus connu, c'est le même que celui de nos camarades de la Cour de cassation ou d'ailleurs du Conseil constitutionnel, c'est juger. Juger, et donc il faut toujours le rappeler, juger parce qu'on nous demande de juger sur des textes que nous n'avons pas nous-mêmes pris. Nous ne sommes que le réceptacle des demandes des requérants et le pouvoir qu'on nous reproche d'exercer, nous l'exerçons parce que la Constitution nous le donne et on nous demande de trancher les litiges. Nous essayons de le faire le mieux possible. La différence entre nous et la Cour de cassation, c'est que la Cour de cassation défend le droit dans les conflits entre particuliers. Nous, nous défendons le droit avec toujours au-dessus, l'intérêt général dont la puissance publique a la charge. Notre deuxième mission, qui historiquement d'ailleurs était la première, c'est la fabrique du droit. C'est les cinq sections administratives, dont celle de l'intérieur que j'ai l'honneur de présider, qui est là pour conseiller le gouvernement et, c'est moins connu, le Parlement. Alors ce rôle-là, il est très secret parce que nous intervenons sur la fabrication des textes juste avant le Conseil des ministres ou juste avant la publication, juste avant l'inscription aux séances, quand c'est un parlementaire qui vient nous voir, et nous ne disons pas ce que nous faisons. Alors depuis quelques années, on rend public nos avis sur les projets de loi, ils ne rendent compte que partiellement de notre activité. Et puis on a une troisième activité qui est importante pour nous, qui est d'essayer d'éclairer l'avenir avec des rapports. À partir de notre expérience, nous proposons des analyses qui peuvent aider l'ensemble des décideurs politiques publics à mieux prendre l'initiative ou à mieux administrer. Est-ce que nous contribuons à la fabrique d'un bon droit ? Nous essayons de le faire. Nous ne prenons pas l'initiative, nous ne la censurons pas, sauf quand elle est contraire à des objectifs. Nous essayons de prévenir les difficultés. C'est un rôle en partie d'avocat. Quand on vient nous voir avec un texte, nous essayons d'imaginer, et nous savons la difficulté que ça représente, Maître Spinozzi le confirmera, tous les moyens qu'on pourrait avancer contre un texte. Alors nous ne les voyons pas tous, nous ne sommes pas infaillibles, mais nous essayons de pousser le gouvernement dans ses retranchements, ou le parlementaire, disant, avez-vous bien vu que dans ce cas-là, vous violez telle ou telle norme, et nous réécrivons le texte. Nous ne travaillons pas que sur la forme et le fond du droit, la conformité aux normes supérieures, en nous servant beaucoup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme de la Cour de cassation. Nous essayons de veiller à l'unité de vision du droit au profit de nos concitoyens. Nous essayons aussi de travailler sur l'opportunité. Alors, entendons-nous bien, c'est pas faut-il ou pas inscrire l'IVG dans la Constitution, inscrire le consentement dans le viol ou censurer de nouvelles formes d'antisémitisme. On vient nous voir avec un projet, nous acceptons ce projet politique. Mais nous essayons de penser à la bonne administration du texte. Qu'est-ce que le guichet de préfecture va faire de ce texte ? Qu'est-ce que le policier va pouvoir en tirer ? Qu'est-ce que nos concitoyens vont pouvoir comprendre de ce texte, comment vont-ils s'en emparer au profit de leurs droits. Et cette partie d'opportunité administrative, qui est peut-être la plus importante, la plus difficile à comprendre, parce que nous le faisons avec beaucoup d'humilité, mais aussi d'expérience, beaucoup de franchise vis-à-vis du gouvernement. C'est pour ça que nos avis, en général, ne sont pas connus, parce que nous sommes parfois brutaux dans la façon de critiquer. On ne le sait pas, on ne s'en vante pas, ce n'est pas un objectif, mais nous sommes le conseil le plus impartial possible, fort aussi de notre expérience de juge.
Merci beaucoup pour ces premières précisions. Et alors, je me tourne justement vers l'avocat maintenant, Maître Spinozzi. Quel rôle jouent les avocats dans la consolidation de l'état de droit ? Donc, il faut imaginer tous les arguments, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président Thiau, mais aussi on peut se demander si peut-être il faut quand même rappeler les bases essentielles dans vos conclusions, dans vos plaidoiries, comme par exemple le droit à une protection juridictionnelle et effective qui a été mentionné par le Président Vigneault. Est-ce que voilà, c'est central ou pas pour vous, ces questions d'état de droit, quand vous préparez vos conclusions, vos plaidoiries ?
Je pense que c'est absolument central. On le voit bien, hein. L'état de droit, c'est évidemment le juge, c'est l'autorité judiciaire. Les juges qui sont ici sont là pour défendre l'autorité, l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est aussi l'avocat. Le juge, c'est lui qui décide, c'est lui qui dispose, c'est lui qui tranche et qui rend une décision de justice. Mais c'est toujours l'avocat qui propose la question qui doit être tranchée par le juge, et c'est toujours l'avocat qui, en réalité, est à l'initiative de la décision de justice. Le juge, en tout cas dans notre système, il ne peut jamais s'auto-saisir. Sans avocat, en réalité, il n'y a pas de procès, et donc, il n'y a pas d'état de droit. Et un autre point qui me semble absolument déterminant, c'est que l'état de droit en tant que tel dont on parle, il n'a pas été créé pour les juges, il n'a pas été créé pour les avocats. Le juge comme l'avocat, en réalité, sont au service de l'état de droit. Nous en sommes des outils. L'état de droit, en réalité, il a été créé pour les citoyens. Pour tous les gens, ceux qui nous écoutent, et tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont tous des justiciables potentiels. Et ces personnes, elles sont susceptibles d'avoir besoin, à un moment ou à un autre, de justice. Et pour ça, ils vont se tourner vers un juge qui a vocation à trancher la contestation qu'ils peuvent avoir avec leurs voisins, avec leur employeur, avec leur partenaire commercial. Mais avant d'aller voir un juge, la première personne qu'ils vont voir, c'est un avocat. Et le rôle de l'avocat, il est là, en fait. Nous sommes une sorte de courroie de transmission entre des individus qui sont ceux-là même qui ont vocation à bénéficier de l'état de droit et l'institution judiciaire qui est représentée par les juges. Et nous, en tant qu'avocats, en réalité, notre mission, c'est d'avoir un peu un pied entre ces deux mondes. En fait, on est des passeurs de monde entre les gens et les juges. Et notre métier, c'est de traduire en fait les besoins de nos clients en des questions juridiques que l'on peut présenter à un juge. Dans l'exemple qui est donné à l'instant et qui est un très bon exemple du président Vigneault, quand il évoque la question des contrats entre, d'un côté, les VTC et les plateformes de VTC, bien sûr que c'est le juge qui va au final décider si oui ou non il y a un contrat qui s'apparente à un contrat de travail avec un lien de subordination. Mais initialement, il y a des gens, il y a des VTC qui en réalité se disent « c'est pas juste, je comprends pas, moi j'ai pas droit aux mêmes garanties que les autres salariés ». Et donc, ils vont devoir aller voir des avocats. Et puis, c'est les avocats qui vont regarder dans le droit, qui vont se dire « mais oui, il y a peut-être un problème. Effectivement, pourquoi vous ne seriez pas salarié ? Quelles sont les conditions du salariat ? Ah, il faudrait qu'il y ait un contrat de subordination, un lien de subordination. Est-ce que vous êtes subordonné ? Ah, on m'a dit que je n'étais pas subordonné. Oui, mais en pratique, comment ça se passe ?» C'est nous qui faisons ce boulot et c'est nous qui portons ces questions jusque devant les juges. Donc, oui, je pense fondamentalement que les avocats sont un rouage absolument essentiel de l'état de droit, puisque il nous appartient, nous, de donner aux justiciables l'opportunité de pouvoir saisir les juges et donc d'offrir aux juges qui sont ici présents l'opportunité de dire le droit et donc de garantir l'effectivité de l'état de droit.
Je crois que voilà, avec ce premier tour de parole, on a défini l'état de droit, son fonctionnement du point de vue de vos positions personnelles et institutionnelles respectives. Maintenant, pour continuer et ouvrir la discussion, on peut se demander ce que vous pensez des évolutions qui l'ont affecté ces dernières années. La place de l'état de droit, la place du droit dans la démocratie a-t-elle changé ? Et il y a tout un ensemble d'oppositions qu'on pourra évoquer entre l'état de droit et la démocratie, la souveraineté, l'élection des représentants. On a un peu parlé déjà de fabrique de la loi et de l'administration. Et on l'oppose parfois à des injustices vécues et à sa capacité ou non à les prendre en charge. Et donc, moi, je m'interroge sur votre diagnostic sur la situation actuelle. Alors, je me dis, voilà, Monsieur le Président Ferrand, vous avez peut-être de par votre position, observé ces évolutions récemment ?
Vous savez, ce qui m'a frappé, et pardon d'évoquer mon passé de parlementaire, mais ce qui m'a frappé, c'est cette tendance assez spontanée qu'ont des responsables politiques, dont je ne fais plus partie, de dire « il y a un problème, on va donc faire une loi ». Je puis vous dire que si les lois suffisaient à régler tous les problèmes, nous devrions être au paradis. Aujourd'hui, sous l'effet de la communication amplifiée, galopante, à travers tel ou tel événement, fait divers tragique, face à une situation humaine qui crée beaucoup d'émotions, émotions qui est amplifiée, alors on cherche rapidement à dire « donc c'est par la loi que l'on va régler cette difficulté ». Alors ça, c'est un premier aspect qui, en vérité, ne valorise pas l'état de droit. À laisser croire que telle ou telle difficulté passerait nécessairement par du travail législatif, qui est nécessaire à bien des égards, mais qui ne peut pas être présenté comme l'antidote à tous les maux. En tout cas, je ne le crois pas. J'ai envie de dire, on se serait aperçu. Ensuite, c'est vrai, il y a des critiques qui sont véhémentes, mais là encore, ce que je me souviens, y compris à l'égard du Conseil constitutionnel, des critiques dans les années 80, 90, 2000, elles n'étaient pas douces non plus. Hein. Il y avait des critiques assez fortes qui se faisaient jour. D'abord, il faut se dire que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la liberté d'expression, d'opinion, d'impression, etc., s'applique, bien sûr, dans les limites posées par la loi, il faut le rappeler. Mais enfin, il faut admettre que toute construction humaine dans une démocratie puisse être critiquable. Ensuite, il y a des critiques qui vous enrichissent, parce qu'elles sont construites, elles sont argumentées, elles sont profondes, elles sont nuancées. Puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et qui versent dans la polémique, et qui a tendance à s'amplifier par les réseaux sociaux, les nouvelles techniques de communication, les chaînes d'information, etc., l'effet de répétition, qui fait que, à la vérité, c'est la qualité du débat démocratique qui s'altère plus que la gêne des critiques en tant que telles. Des critiques bien exposées sont toujours parfaitement utiles pour tout le monde, je le crois. Simplement, c'est ce mode d'expression qui a radicalement changé. Ensuite, on voit bien qu'on est face à des injonctions assez contradictoires. Parfois, j'entends des critiques qui émanent de beaucoup de personnes qui nous saisissent toujours plus. Et donc, on dit « Ah, le gouvernement des juges, c'est quelque chose d'affreux. D'abord, ça n'existe pas. Mais ensuite, puisque donc nous n'avons pas emporté la conviction dans telle ou telle chambre parlementaire, alors on va faire dire au Conseil constitutionnel que nous avons raison. » Et lorsque nous en serons en disposition, les requérants considèrent qu'ils ont triomphé, et puis bon, les autres sont malheureux, parce qu'ils le vivent comme un échec. Mais au fond, nous ne faisons pas, comme ça a été dit par le président Vignon tout à l'heure, nous ne faisons pas à notre place de politique, mais nos décisions, les responsables politiques s'en emparent et les projettent dans le débat public. Et de facto, nous placent dans ce débat. Mais sur les critiques, elles ont place dans la vie démocratique. Ensuite, il faut qu'elles soient respectueuses de la loi, qu'elles ne comportent jamais de menaces qui sont évidemment inadmissibles dans leurs principes. Et puis, ce serait bien qu'elles puissent être utiles, les critiques.
Merci, Monsieur le Président Ferrand. Est-ce que Monsieur le Président Thiot voulait peut-être ajouter quelque chose ou...
Oui, d'abord dire que je souscris entièrement au diagnostic fait par le Président Ferrand. Il y a quelque chose de positif concernant l'état de droit, c'est que tout le monde en parle. Et après tout, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quand même une sensibilité collective qui s'est accrue à la nécessité de cet état de droit. Alors après, il faut s'entendre sur les termes. Je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas tous collectivement un immense devoir de pédagogie pour expliquer que l'état de droit, ce n'est pas la défense de son droit pour chacun. Mais comme ça a été rappelé par tous les autres intervenants, la même règle pour tout le monde, démocratiquement élaborée et placée sous le contrôle d'un juge. C'est ça l'état de droit. Nous avons besoin de replacer la norme dans son rôle solennel et accessible. Ce que nous attendons de la démocratie, tous, c'est qu'elle nous fixe des objectifs et qu'elle nous donne des garanties. Mais nous ne voulons pas que l'espace public soit saturé de règles innombrables. Ce qui menace l'état de droit, le président Ferrand le disait, c'est la logorrhée, C'est l'exercice du pouvoir législatif en journal de 20 heures. C'est la capitalisation sur des faits divers pour des mesures de circonstances dont on ne pèse pas par la délibération les impacts ultérieurs. Comparé à la loi de 1901, on a un tissu associatif extraordinaire en France. C'est l'un des vecteurs de la vie démocratique. On a deux pages de texte quasi inchangées depuis plus d'un siècle. Le code de commerce, que le président Vigneault connaît beaucoup mieux que moi, c'est 2000 pages qui, dans certains titres ou chapitres, sont devenues incompréhensibles et contradictoires. Et tout l'effort du juge, c'est de rétablir de la lisibilité. Nous avons réussi à modifier récemment tout le livre 6 sur les procédures collectives qui était devenu incompréhensible. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs des outils de liberté, hein, c'est aussi des outils de compétitivité économique, de bien-être social. Une loi sobre, impartiale, peu bavarde, est la vraie garante de l'état de droit. Les régimes libéraux s'engouffrent aussi dans l'abus du droit. Et l'état de droit, c'est la clarté. Le président Ferrand le rappelait, tout ça, c'est pour le citoyen. Ce n'est pas pour les politiques ou pour les juges ou pour les fonctionnaires. Et le citoyen, lambda, il doit aujourd'hui pouvoir s'emparer de son droit. Pas pour faire reconnaître qu'il a raison, mais pour pouvoir faire valoir ses arguments.
Finalement, le grand absent du débat du jour, c'est un peu le législateur parmi nous. Il aurait été intéressant aussi de l'entendre. Merci, Monsieur le Président Thiot. Alors, je crois que aussi Maître Spinozzi voulait ajouter quelque chose.
Oui, moi, je souscris évidemment à ce qui a été dit, mais ce qui est décrit par le président Ferrand et par le président Thiot, en réalité, c'est à travers le problème de l'incontinence législative, avec cette idée que trop de droit tue le droit. Ça, c'est la maladie de l'état de droit. Mais il ne faut pas être naïf. Moi, je disais que nous, les avocats, on avait vocation à être des passeurs et à être dans le concret. Si on s'interroge sur les menaces, puisque c'est les questions qui sont contemporaines aujourd'hui et auxquelles doit faire face l'état de droit, il ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui en France et d'autres dans le monde à remettre en cause l'état de droit. Et il faut bien savoir qu'il y a aujourd'hui une menace en France. Et ce qui est très dangereux, et ce qui est assez nouveau en réalité, c'est que cette menace, puisque vous évoquez la notion de démocratie, elle vient de l'intérieur même de la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à des menaces de nos libertés qui, comme au siècle dernier, venaient de dictatures, de personnes qui arrivaient, qui envahissaient les pays. Tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, la menace à l'état de droit, elle vient de dirigeants politiques qui sont légitimement élus et qui ont une assise démocratique. Si vous prenez des gens comme Donald Trump aux États-Unis, si vous prenez Viktor Orban en Hongrie, ce sont des gens qui sont les grands pourfendeurs actuellement de l'état de droit et qui, pour autant, ont été parfaitement légitimement élus. Et c'est là tout le danger, c'est la menace qu'on appelle la menace populiste. Et en réalité, ces personnes viennent vous dire « Écoutez, nous avons été élus. Et parce que nous avons été élus, nous sommes les seuls légitimes. » Et donc, à partir du moment où vous vous opposez à notre action, eh bien, vous vous opposez au peuple. Et donc, vous n'avez pas de légitimité à pouvoir essayer de nous contrer. Et c'est tout le problème, et c'est toute la tension qui existe aujourd'hui sur l'état de droit, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes instrumentalisent le peuple pour créer une opposition entre, d'un côté, les juges, l'autorité judiciaire, les gens qui sont là pour garantir la liberté des citoyens, et de l'autre, prétendument, des personnes qui sont censées incarner la volonté populaire. Donc, la menace, elle est là, il faut en être parfaitement conscient, et il faut évidemment s'en prémunir, parce qu'elle est extrêmement dangereuse, et elle risque de porter atteinte aux libertés de tous les citoyens.
Alors, je pense que voilà, il y a une tension constitutive sur laquelle on va revenir entre des critiques de l'état de droit qui utilisent en fait les moyens de l'état de droit, si je puis dire, depuis des positions électives ou par la multiplication de lois pour éventuellement porter atteinte à un ensemble de principes. C'est une question, je pense, sur laquelle on va revenir. Mais Monsieur le Président Vigneault, vous vouliez réagir à ce premier point.
Oui, je voulais rebondir sur les propos de Maître Spinozzi que je partage entièrement. Il y a une évolution préoccupante actuellement. On entend ici, là, sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, une petite musique récurrente, que l'état de droit, ce serait devenu l'arme des juges contre les politiques. Une sorte de cheval de Troie introduit dans nos institutions pour faire primer la volonté d'une élite non élue sur celle du peuple exprimée par ses représentants élus au suffrage universel. C'est un procès en illégitimité. Alors, c'est commode, mais ça repose sur une vision caricaturale et dangereusement réductrice de ce que c'est que l'État de droit. Le droit, dans une démocratie moderne, comme la France, mais aussi comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ce n'est pas que l'expression d'une volonté exprimée à un instant T. C'est très important, ça. Il repose aussi sur un socle de normes supérieures issues de moments fondateurs de notre histoire, qui ont été adoptés avec le soutien massif du corps social et reconnus par la grande majorité des Français comme des garanties essentielles de leur liberté. Ces normes, c'est la Constitution, sont les principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, les principes généraux du droit, s'inscrivent dans un temps long, celui des équilibres, le temps des cicatrices, des conquêtes patiemment élaborées. Et certaines de ces normes ont d'ailleurs été consacrées par la communauté internationale à travers des conventions, comme la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France a librement adhéré et qui a été validée par le législateur lui-même. Et notre Constitution, que nul ne serait soupçonné d'hostilité au suffrage universel, bien au contraire, puisqu'elle prévoit l'élection du président au suffrage universel, eh bien, elle dit, à l'article 55, que ces conventions internationales ont une valeur supérieure à la loi. Le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, il n'a pas d'autre choix que lorsque une loi entre en contradiction avec un texte international, de faire trancher cette constatation et de faire privilégier la règle qui est supérieure. Et c'est là tout l'objet de l'état de droit. C'est faire en sorte que le droit protège chacun, quelle que soit sa position dans le jeu démocratique. L'état de droit, on l'a arraché le 4 août, dans la nuit du 4 août 1789, lorsqu'on a aboli les privilèges. La loi est la même pour tous. Est-ce qu'on veut revenir à une société des privilèges? Vous savez la fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou minérable. Mais est-ce que c'est ça auquel on veut revenir, qu'il y aurait une justice à deux vitesses pour les puissants et pour les non-puissants, une justice pour ceux qui sont dans la majorité et une justice pour ceux qui sont dans la minorité? Non, l'état de droit, c'est l'égalité devant la loi. Et lorsqu'il y a des conflits, eh bien c'est au juge et seulement au juge de les trancher à l'issue d'une procédure équitable.
On va rentrer dans ce sujet encore plus, je pense, parce que vraiment, c'est difficile aujourd'hui de parler d'état de droit sans évoquer ces attaques. Alors, Maître Spinozzi, vous avez parlé de Trump ou de Viktor Orban, mais on peut effectivement mentionner le fait qu'en France, aujourd'hui, il y a, disons peut-être, deux types d'attaques. D'une part, de la part directement d'acteurs politiques. Et ce que vous avez évoqué aussi, Monsieur le Président Vigneault, à l'instant, par exemple, on a eu des ministres de l'Intérieur qui ont estimé que certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne leur convenaient pas ou n'étaient pas conformes à leur projet en interne. Mais d'autre part, on a eu aussi, on peut le dire frontalement, tout récemment, la question qui s'est posée avec la condamnation de l'ancien président, donc Nicolas Sarkozy, en première instance. Et dans les médias, il y a eu effectivement une attaque, vous l'avez mentionné, directement à l'égard des juges et de la question de leur indépendance aussi. Alors, bon, tout ça fait qu'on se pose peut-être deux séries de questions. Est-ce que, comment on continue à faire prévaloir l'état de droit malgré ce discours ambiant qui ne lui est pas très positif, d'une part. Et d'autre part, on s'interroge aussi de savoir est-ce qu'on est dans une époque où ces attaques à l'égard de l'état de droit se multiplient et est-ce qu'elles s'aggravent aussi? Alors, Monsieur le Président Thiot.
Il y a évidemment un débat beaucoup plus vigoureux, mais le président Ferrand le disait, la liberté d'expression, ça consiste à entendre des choses désagréables et qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie d'entendre. Et il est très heureux qu'on puisse avoir le débat à partir du moment où il recourt aux armes du débat équitable, transparent, raisonné, informé, et qu'il ne tombe pas dans l'injure ou dans la diffamation. Je trouve très bien qu'on puisse contester tel ou tel article de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on remette en cause tel ou tel trait de la jurisprudence du Conseil d'État ou d'une autre juridiction. Tant mieux qu'on puisse en parler, c'est utile, c'est la vraie démocratie. Je ne suis pas sûr que nous vivions une période si originale que ça. Alors, je n'ai pas tout à fait la même liberté de parole que mon ami Spinozzi pour parler de la scène politique, mais je peux au moins parler d'histoire qui montre que finalement, ce n'est pas sûr que c'était mieux ou plus tranquille avant. Le Conseil d'État des années 1880, il avait en face de lui l'essor du mouvement anarchiste, la prise de mesures de police jugées liberticides et des inquiétudes réelles qui ont culminé dans la crise du procès Dreyfus. Les années 30 avec les ligues, ce n'était pas très confortable pour un juge administratif. Et on peut multiplier les exemples. L'état de droit, ce n'est pas un acquis. Alors, qui peut le défendre ? Nous tous, bien sûr, nous sommes payés pour ça, c'est notre mission. Mais, pardon de citer, non pas La Fontaine, mais Thucydide, les remparts d'une cité, ce n'est pas justement ni ses murs, ni ses lois, c'est la vertu de ses citoyens. L'état de droit, c'est une propriété collective. Et ce n'est pas un stock définitif de mesures qu'on peut défendre. C'est l'animation du débat par des gens convaincus parce qu'ils sont juges, avocats, législateurs, militants, syndicalistes, citoyens, électeurs, qu'ils ont quelque chose à apporter à l'espace public et à partager. Et dans cette clinique-là, je crois qu'on ne peut pas craindre la démocratie. Au fond, les critiques des populistes, elle nous invite à tester la solidité de notre modèle et à le défendre et le promouvoir, pas le considérer comme un pré carré dont on n'a pas à sortir.
Maître Spinozzi, peut-être sur ce point ?
Oui, moi je suis extrêmement intéressé par ce que vous dites sur l'approche historique. Et vous relevez que tous les exemples que vous avez donnés sont des exemples qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. L'état de droit tel que nous le vivons aujourd'hui, cet état de droit européen, Monsieur le Président Vigneault a évoqué la Convention européenne des droits de l'homme, les grandes déclarations de droit, tout cela est né postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale et précisément en contrepoint de la Deuxième Guerre mondiale. Les pères fondateurs de l'Europe et les pays vainqueurs, face aux horreurs de la guerre, ont dit « En fait, il faut trouver une solution pour qu'il y ait la paix en Europe. » Et cette solution, eh bien, c'est de lier tous ces États qui se sont fait la guerre depuis que l'Europe existe avec du droit. Et c'est ça notre état de droit aujourd'hui. Hein. Et ce que je partage profondément, c'est cette idée sur laquelle l'état de droit dont on parle depuis tout à l'heure, un, il est fragile, deux, il est précaire, et trois, c'est un peu un accident de l'histoire. Nous vivons en paix aujourd'hui en Europe depuis 70 ans. Vous pouvez remonter la chaîne de vos ancêtres. Depuis 3000 ans, en fait, toutes les générations sur notre sol ont connu la guerre. Et c'est aussi grâce à l'état de droit que nous vivons actuellement en paix. Et les menaces qui pèsent sur l'état de droit, ou ceux qui instrumentalisent ces menaces et qui cherchent à mettre à bas cet état de droit, en réalité, le risque qu'ils font peser, au-delà du risque immédiat sur les libertés des citoyens, c'est le risque de ruiner cet état de prospérité et de paix qui a été nôtre depuis 70 ans. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité. Moi, je crois beaucoup à cette idée, en fait. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que nous tous là, les gens qui nous écoutons pour la majorité, et les gens qui sont en tout cas dans cette salle, on est des enfants gâtés de la liberté. On ne s'est jamais battu, en fait, pour la liberté. On l'a reçue en héritage, parce qu'on est né postérieurement à la guerre. Et au fond, eh bien, cet héritage de la liberté, il nous engage. Il nous engage à l'égard de nos enfants, des générations futures. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se batte pour l'état de droit. Il faut qu'on se batte pour nos libertés et il faut qu'on comprenne que ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien, c'est grave et que moi, à titre très personnel, je n'ai absolument pas envie de revenir à avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de l'entre-deux-guerres où effectivement il y avait les ligues, à l'époque de l'anarchisme, voire à l'époque des privilèges. Donc, ce droit-là, cette vie-là, cette égalité-là, cette liberté de ton, de parole que nous avons, ce droit à une forme de sécurité dans laquelle nous vivons, eh bien, il faut que nous nous rendions compte que c'est aussi grâce à l'état de droit. Et il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent. Et dans ces conditions, cherchent non pas à l'abattre, mais bien à le garantir et à essayer de tout faire pour le préserver.
Merci, maître. Donc, je pense que la discussion tourne vers ce côté vivant, en fait, de l'état de droit. Et c'est ce que je pense on entend de votre part. C'est quelque chose qui n'est pas acquis, qui a subi des critiques, mais qui est aussi quelque chose à défendre, ou en tout cas à remplir et à occuper et à mettre en mouvement. Monsieur le président Ferrand, je pense que face à ces différents points de vue, vous avez éventuellement votre position de président du Conseil constitutionnel.
Écoutez, moi, j'entends les alertes. Je crois qu'elles sont véritablement fondées. Et la réponse doit être évidemment ni angélique, ni catastrophiste. Mais du coup, elle est difficile à déterminer. Alors quand mes collègues et moi, et au-delà de tous ceux qui sont ici, quand on s'interroge sur la bonne façon de maintenir vivant et préserver notre état de droit, c'est effectivement ne pas pécher par angélisme et penser que, après tout, chaque époque a ses colères ou a ses critiques. Et c'est pas non plus de se dire que l'apocalypse est proche. Faute de quoi, on risque soit de manquer d'énergie pour défendre notre état de droit dans le premier cas, et dans le second, de paraître en effet et être facilement caricaturable par toute une série de démagogues qui, par le monde, veulent faire croire que ceux qui défendent l'état de droit se défendent eux-mêmes. Ils ne défendent pas une conception de la vie en société. Donc ce sont deux pièges extrêmement difficiles à éviter, mais qu'il faut avoir à l'esprit pour arriver de trouver le bon moyen d'efficacité. Moi, ce qui me frappe, vous avez évoqué ce président Thuot et maître Spinozzi, il y a des références à l'histoire. Je trouve d'abord qu'il est extrêmement difficile, vis-à-vis des jeunes générations, de faire comprendre que l'histoire, d'abord, n'est pas toujours lointaine et n'est pas une irréalité. C'est-à-dire de faire véritablement prendre conscience que lorsque nous évoquons des situations, les uns les autres, on dit c'était les années 30, c'est pas antédiluvien, quoi. C'est quelque chose que nos grands-parents ont connu très concrètement. C'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain, etc. Et que, en effet, les conquêtes récentes sont fragiles, qu'en effet, c'est exceptionnel. Au fond, c'est un état d'exception positif que nous vivons de cette longue période de paix et de civilisation pacifiée, et que, par conséquent, rien de tout ça n'est acquis. Et sans vouloir paraître ni obsessionnel ni trop conventionnel, je reste convaincu que il y a aujourd'hui véritablement, par la diffusion tronquée et malveillante le plus souvent de l'information, je reviens sur ces réseaux sociaux, ces chaînes infos, sur cette caricature de l'expression des uns et des autres, sur ce refus collectif de la complexité, sur l'idée de poser des questions simplistes et de n'entendre ou ne voir entendre que des réponses simplistes, que l'on abêtit collectivement, nous abêtissons collectivement et que l'on dégrade notre capacité collective à progresser comme citoyen. Il y a quelque chose de cette nature et qui ne serait pas à grande vitesse. Et je voudrais juste en terminer sur un point, c'est que je suis très frappé que, en matière de presse, on ne peut pas écrire dans la presse des choses qui transgressent la loi. Sinon, on peut être puni, qu'on soit journaliste ou directeur de la publication. À l'inverse, parce que l'on serait hébergeur de la pensée d'autrui par des réseaux sociaux, etc., là, on peut véritablement professer toutes sortes d'injures, de propos de haine, de choses qui seraient délictuelles autrement. Alors, comment aller chercher les directeurs de ces publications, si je puis dire, pour précisément leur faire comprendre qu'on ne peut pas, par d'autres moyens, contourner les règles que nous nous sommes fixées et les moyens d'empêcher justement ce que nous ne voulons pas de se produire. Je crois que c'est un sujet véritablement sérieux parce que je ne vois pas. Il y a des explications diverses, économiques, sociales, etc., bien sûr. Mais il est quand même curieux de voir que partout se diffuse la même propagande sous différentes formes, les mêmes vagues grossissent dans différents pays, dans différents coins du monde. Ça interroge tout de même, parce qu'il y a souvent des variations selon les tropiques. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de mondialisation, de globalisation de ce refus de ce que nous appelons l'état de droit, j'entends par là, des règles communes qui respecte un certain nombre de principes sur lesquels je ne reviendrai pas, nous les avons tous évoqués. En tout cas, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup sur cette simultanéité dans le temps et curieusement dans l'espace aussi.
Merci, Monsieur le Président Ferrand. Vous avez raison, on est dans une époque, effectivement, où les réseaux sociaux l'emportent. Alors justement, nous, on est très heureux ce soir d'avoir un format un peu plus long et de prendre le temps de discuter. Et vous m'offrez aussi une très bonne transition vers une autre question qu'on peut se poser quand on parle de l'état de droit. C'est le poids, l'importance qu'ont les normes européennes et internationales. Alors, évidemment, on a mentionné historiquement le fait que l'état de droit, donc c'était un accident de l'histoire, comme vous l'avez dit, Maître Spinozzi, parce que, eh bien, on a été un peu forcé d'avancer vers un état de droit. La construction européenne s'est faite en même temps, mais plus récemment, il y a aussi, par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est venue s'immiscer peut-être dans ce débat. Voilà, moi je m'interroge en tout cas, quelle est la conséquence de ces normes européennes sur notre conception de l'état de droit ? Monsieur le Président Thur ?
Juste un mot, c'est devenu un grand classique de la critique. Alors, quelques éléments de réponse pour remettre les choses en place. D'abord, l'Europe, c'est nous. Nous y avons adhéré, nous y élisons nos députés. Je ne connais pas d'exemple de position française qui, fermement défendue avec de bons arguments, n'ait pas abouti à une législation européenne conforme à nos intérêts. Et la paresse ou le confort de la position consistant à dire « c'est pas nous, c'est eux », en mettant en scène une Europe qui ne serait pas nous, en refusant ce qu'est l'Europe même, c'est-à-dire un compromis entre nos vieilles nations ou plus récentes, une tentative de nous entendre entre nous, aboutit à cette théâtralisation absurde. Ensuite, quand on connaît bien la législation européenne, qu'on la regarde en détail, bien sûr, on peut tous ici, autour de la table, vous trouver des exemples. Moi, j'aime beaucoup citer la directive européenne sur le rayon de courbure du concombre, qui distingue le concombre de qualité, qui est droit de celui qui est courbe, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. A-t-on vraiment besoin de ça? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est rarissime. Les règlements européens sont d'une généralité immense, laissent des marges de manœuvre dont on ne soupçonne pas l'ampleur. Et le plus souvent, là aussi, c'est la paresse qui nous conduit à dire bah, « nous, c'est l'Europe ». Mais nous avons là des outils dont nous pouvons nous emparer, que nous pouvons inspirer avant qu'il soit écrit et dont la mise en œuvre laisse une place immense au génie national. Travaillons plutôt à reprendre le pouvoir en Europe, envoyons-y des fonctionnaires, des étudiants, faisons du lobbying, faisons prévaloir nos idées. Nous avons inventé plein de choses. La régulation financière européenne, c'est le modèle français. La régulation informatique, c'est le modèle français. La régulation de la protection du droit d'auteur, c'est le modèle français. Ne nous arrêtons pas, continuons. Je crois qu'il faut que nos auditeurs le sachent. Les menaces à l'état de droit ne doivent pas susciter des plaintes ou de l'indignation. Ça doit susciter de l'imagination, de la création et de la construction d'autre chose qui sera le nouveau contenu de l'état de droit.
Merci, Monsieur le Président Thiot. Donc, je note que on a un génie national qui peut s'exprimer à côté ou grâce aux normes européennes, Monsieur le Président Vigneault.
J'aurais pu continuer cet inventaire, la préfère du Président Thiot. On peut parler également de toute la législation sur les clauses abusives qui protègent le consommateur. Elle est d'inspiration française. Le législateur européen a quasiment repris le texte français en l'améliorant grâce à la discussion. C'est aussi ça l'Europe, c'est le dialogue, c'est l'échange. On caricature l'Europe en disant c'est un abandon de souveraineté. Non, c'est pas un abandon de souveraineté, c'est un partage de souveraineté. Les législateurs français, les Français, nos représentants ont accepté de partager certains aspects, pas tous, certains aspects de notre souveraineté avec d'autres. Mais on n'abandonne pas notre souveraineté, on la partage avec d'autres, et c'est-à-dire qu'on discute aussi de points de souveraineté des autres pour construire un espace commun où le droit sera appliqué à peu près de la même façon dans tous les États. Alors, comme l'a dit le président Thiot, les directives européennes laissent une marge de manœuvre importante aux États. Donc les règles fondamentales sont les mêmes, mais et ce qui permet de voyager d'un pays à un autre, ce qui permet de commercer d'un pays à un autre, ce qui permet à nos agriculteurs, par exemple, d'exporter, parce que nombreux pays n'acceptent pas des fromages qui ne soient pas pasteurisés. Et c'est grâce à notre législation qu'on a pu faire en sorte que on puisse exporter nos fromages. On a deux Europes. On a l'Union européenne et on a le Conseil de l'Europe. On parlait de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça peut avoir des conséquences très concrètes dans la vie des citoyens. Pendant très longtemps, l'enfant adultérin, c'est-à-dire celui qui était né fruit d'un adultère, recevait, c'était le Code civil français qui le disait, recevait la moitié de la part d'un enfant légitime. Est-ce que c'était juste ? Non. Et ça a duré très très longtemps. Il a fallu qu'un jour, un enfant adultérin saisisse la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle dise « mais non, c'est une discrimination qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ». Et c'est aussi un lieu, l'Europe, que ce soit l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, c'est un lieu de dialogue. Dialogue entre les législateurs, dialogue entre les juges. Et souvent, c'est en dialoguant qu'on s'améliore. Et nos législations évoluent, se bonifient grâce à ce dialogue. Et cet enfant qui a pu obtenir la même part que son demi-frère, bah c'est grâce à l'Europe. Et s'il n'y avait pas eu la Convention européenne des droits de l'homme, il aurait été lésé. De moitié.
On a maintenant abordé la question de l'Europe, mais on a aussi abordé la question du dialogue, du compromis, de la discussion, de la liberté d'expression qui permet aussi d'entendre le désaccord. Et forcément, quand on est avec des juristes, des juges et des avocats, on pense à cette question de la discussion, puisque les juges décident, mais à partir d'une procédure, les avocats participent à cette procédure, il y a un échange d'arguments, le droit qui paraît un peu froid dans ces textes, on a aussi beaucoup d'exemples à la fois de lois qui protègent et de lois parfois nombreuses, mais à la fois dans la procédure et puis en dehors par des discussions ici ou dans la communication aussi que font beaucoup les juridictions, les juristes dans l'espace public, il y a une délibération et ma question c'est comment cette discussion, cette délibération peut enrichir l'état de droit, le transformer et assez simplement, et c'est entre autres l'objet d'Amicus Radio, mais est-ce qu'il faut discuter du droit pour répondre à l'ensemble des enjeux que nous avons vus aujourd'hui, Maître Spinozzi ?
L'état de droit garantit par nature la discussion. C'est-à-dire que, ici, nous sommes tous des juristes et nous savons que dans un état de droit, la vérité judiciaire, elle naît de la contradiction. Moi, je plaide devant des magistrats, j'ai quelqu'un qui propose une solution alternative et j'ai un juge qui va trancher. Et la réalité, c'est que la justice, dans une démocratie, c'est ainsi qu'elle est rendue. Donc, évidemment, que la discussion est un élément fondamental de l'état de droit, puisque sans discussion, il n'y a pas de justice dans une démocratie. Sans contradiction, il n'y a pas de justice dans une démocratie. Et dans une démocratie, il y a des gens qui ont une majorité, bien sûr, et c'est eux qui dirigent le pays. Il y a des gens qui sont dans la minorité. Mais les gens qui sont dans la minorité, dans une démocratie, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de s'exprimer, et mieux, ils ont des droits qui leur sont reconnus parce qu'ils sont une minorité. Le problème auquel nous faisons face actuellement, c'est que, précisément, il y a un certain nombre de personnes qui revendiquent que, parce qu'ils sont justement dans une démarche qui est une démarche populiste, en réalité, à partir du moment où vous êtes dans la minorité, vous n'avez pas les mêmes droits. Vous n'avez pas le même droit à liberté d'expression. Et on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. L'exemple aujourd'hui de l'Amérique de Donald Trump, il est criant. Parce que Donald Trump a été élu, il considère que toute personne qui s'oppose à son action est, on l'a dit, illégitime, mais mieux, n'a pas le droit de pouvoir s'exprimer. Et c'est bien là qu'est évidemment le danger. C'est-à-dire que pour discuter, et encore faut-il que l'on soit deux, à partir du moment où vous bâillonnez votre opposant politique, à partir du moment où vous refusez que qui que ce soit puisse s'opposer à votre action parce que vous lui en déniez le droit, eh bien, évidemment, petit à petit, vous glissez dans quelque chose qui n'est plus la démocratie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes plus dans l'état de droit. Donc, il faut, et ça, c'est un... Parce qu'on s'interroge, évidemment, sur la menace sur l'état de droit, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que dans notre vie de tous les jours, nous nous battions tous au quotidien pour accepter les idées de l'autre. Le président Ferrand le disait, un des dangers principaux aujourd'hui de notre démocratie, c'est la simplification, qui est multipliée par l'usage des réseaux sociaux, qui, en réalité, refuse la complexité des sujets. La vie, c'est complexe. La vie nécessite de parler. Nous devons, si nous voulons continuer à vivre ensemble et faire société, accepter la différence de l'autre. et accepter que chacun puisse exprimer sa différence, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec lui.
Merci, Maître Spinozzi. Je crois que vous voulez réagir, Monsieur le Président
Pignot. Oui, oui. Alors, l'état de droit, c'est un peu comme l'oxygène. On ne s'en rend pas compte qu'on en a besoin. On s'en rend compte lorsqu'on n'en a plus et qu'on commence à suffoquer. Et le robinet, il se ferme petit à petit. Et à un moment donné, on n'a plus assez d'oxygène. Et je voudrais insister quand même sur le rôle des juges et penser à mes collègues. Moi, j'ai une position assez confortable sur la Cour de cassation. On est assez éloigné du justiciable. Mais je veux penser à mes collègues de premier degré. J'ai été juge de première instance. J'ai été agressé 3 fois dans ma carrière pour des décisions que j'avais rendues. Et j'avais simplement appliqué la loi. Et des gens n'étaient pas contents. Et ils sont venus m'agresser 2 fois dans mon bureau et 1 fois à l'extérieur. Et actuellement, on observe des attaques constantes contre les juges qui ne font que exercer leur mission, exercer le travail pour lequel ils ont été choisis, pour lequel ils se battent tous les jours. Et je vois que des affaires récentes, des collègues ont reçu des menaces de mort et sont obligés d'être protégés. C'est absolument scandaleux. C'est vraiment une dérive. Tout ça parce que, et là, dans des affaires dont on a parlé, parce qu'on voudrait que la loi soit appliquée différemment suivant les personnes sur lesquelles elle s'applique. Qu'il y aurait finalement un retour des privilèges, qu'on réclamerait au nom des émotions, au nom de l'opinion, des exceptions à la loi. Ben, face à ces pressions, et ces pressions elles sont fortes, le juge il a le devoir d'appliquer la loi avec une rigueur égale pour tous, en respectant la procédure, mais il doit savoir aussi appliquer la loi, même au risque de déplaire. Et le juge, il n'est pas là pour être populaire. C'est très important, ça. Le juge, il n'est pas là pour être populaire. Il n'est pas là pour rendre une décision qui sera approuvée par référendum. Il est là pour appliquer la loi. Et si on n'est pas d'accord, on peut faire appel. Et on ouvre un nouveau procès contradictoire. Et ensuite, si on n'est pas d'accord avec la cour d'appel, on peut former un pourvoi en cassation. Et en France, on a la chance d'avoir un accès gratuit, un accès qui n'est pas limité aux juges. Et il faut penser aux juges qui doivent recevoir ces pressions qui se transforment parfois en menaces.
Merci, Monsieur le Président Vignot. On va bientôt conclure. Je ne sais pas si Monsieur le Président Chou voulait intervenir, puis on conclura avec Monsieur le Président Ferrand.
Non, juste un mot pour confirmer ce qui a été déjà très bien dit. La démocratie, c'est juste le droit pour une majorité d'exercer le pouvoir exécutif et de pouvoir, en termes législatifs, faire voter les délibérations qu'elle souhaite. Ça n'est pas le droit d'opprimer les minorités. C'est exactement le contraire. L'état de droit, il est fait pour la protection de toutes les minorités. Et il est fait pour garantir un espace commun dont nous sommes copropriétaires, dont il faut veiller à la préservation, ce qui veut dire accepter le débat avec l'autre, accepter le désaccord, pratiquer la délibération. Mais c'est un effort qui n'est pas seulement celui des juges ou des législateurs, c'est un effort qui doit être partagé. Je finis juste par cette situation à nouveau Thucydide. Se reposer ou être libre, il faut choisir.
Monsieur le Président Ferrand, sur ces questions.
Vous savez, Mona Ozouf écrivait, cette historienne, que l'ensauvagement des mots précède souvent l'ensauvagement des actes. Je trouve que cette parole, cette analyse, illustre bien ce qui se passe, nous l'avons dit les uns et les autres, par la violence verbale de nombreux propos publics, et qui ne sont en vérité que le filigrane des violences qui peuvent ensuite être de véritables atteintes aux personnes. Et donc là, comme l'ensemble des interlocuteurs, je souhaite véritablement que l'on retrouve le goût du débat, de la disputation, qui soit respectueux, qui peut être ferme, qui peut être virulent. On a le droit de s'engueuler, mais pas de s'agresser. Il y a une différence quand même. On a le droit de débattre sans imaginer que le débat doit nécessairement être un combat. Et ça, il me semble que dans toutes les strates de la société, y compris là où se fait la loi, on gagnerait à repenser à cela et à faire sienne un peu cette forme de sagesse qui est absolument nécessaire si l'on veut que, à la fois, il y ait ce respect de l'état de droit, mais aussi qu'il y ait du respect vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de celles et ceux qui les incarnent. Ensuite, vous parliez d'oxygène, monsieur le président Mignon, mais c'est vrai qu'il est, il est extrêmement important aussi de faire mesurer ce, la, ce que nous avons comme liberté, comme droit, comme accès à la justice, comme capacité de faire valoir un point de vue, etc. Et ne pas attendre de perdre cela pour s'en rendre compte. Donc oui, se dire qu'il faut que les citoyens qui ont conscience, quelle que soit le, leur place dans la société, qui ont conscience que l'art de vivre dans une république démocratique doit persister, ne pas se laisser dominer par de la propagande, par des mœurs qui se dégradent dans l'échange, dans le dialogue, eh bien ils doivent militer, réagir, faire savoir dans l'entourage, là où ils sont, là où ils travaillent, à quel point nous sommes attachés à ces valeurs, indépendamment des convictions qui animent les uns et les autres. Là n'est même pas le débat, simplement savoir en débattre de ces convictions. Par conséquent, je crois, moi, à ce réveil possible, mais là où nous sommes, notre premier devoir est sans doute de faire en sorte que ce réveil se produise et que surtout l'endormissement ne se produise pas.
Merci, Monsieur le Président, et merci à tous ce soir. Je pense qu'on a eu une série de glissements de l'état de droit comme système de normes à une démocratie vivante et partagée, de la position des juges, des avocats, aux vertus de tous les citoyens et de tous. Merci beaucoup pour cette riche discussion. Dans cette salle Wedel, en plus, qui fait penser au doyen Georges Wedel, vous l'aviez cité, Monsieur le Président Ferrand, qui a siégé dans cette institution et qui a beaucoup travaillé pour défendre le rôle du droit dans la démocratie. Et je pense que c'est important à souvenir aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis, Mathieu Fèvre et Sally et moi, donc Tania Rachaud, pour cette émission spéciale avec Léo Bardot-Arango à la réalisation. Évidemment, je remercie également nos invités pour ces débats et ces échanges très intenses. Donc Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, Thierry Thuot, président de la section intérieure du Conseil d'État, Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, et Patrice Spinozzi, avocat au Conseil. Ne manquez pas la sortie de nos émissions en vous abonnant à Micus Radio sur toutes les plateformes de podcasts.